Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est une émission spéciale consacrée à la situation à Hong Kong. Nous sommes avec Béatrice et François, tous deux sont membres du comité pour la liberté à Hong Kong.
Hong Kong rentre dans le sixième mois de mobilisation. Hong Kong vit sa plus grande crise politique depuis la rétrocession à la Chine en 1997. Le mouvement a débuté à la suite d'un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine. Des membres du comité pour la liberté à Hong Kong, qui nous expliquaient quand nous l'avons rencontré sur cette antenne, que même ces projets supprimés, aujourd'hui, les revendications sont pour les suffrages universels, pour l'élection du chef de l'exécutif local et une enquête indépendante sur les violences policières. La contestation, la semaine dernière, a basculé sous la pression de la police dans une phase d'occupation des universités, lycées, blocage des moyens de transport. La répression, la seule réponse apportée aux revendications pro-démocratiques depuis le début du mouvement, s'est intensifiée. La menace des tirés à balles réelles a fait sa première victime, un policier a tiré à bout portant à balles réelles sur un manifestant désarmé tout près d'un des universités. La police de Hong Kong a reçu le renfort du personnel pénitentiaire. Et avec Béatrice et François, comme Laure nous a dit, qui sont membres du collectif pour la liberté à Hong Kong, nous allons revenir sur la situation et sur cette mobilisation qui s'inscrit dans la durée. Et bonjour à vous.
Bonjour. Merci pour
Alors, vous inviter. Merci. Alors, je pense qu'il faudrait commencer parce qu'aujourd'hui, la situation au campus de l'Université Polytechnique a fait la une de la presse. Mais d'une manière générale, quelle est la situation depuis l'appel du 11 novembre au boycott des cours qui était lancé?
Oui, en fait, ça fait un peu plus longtemps que... Ça fait un peu plus longtemps que cet appel à la grève générale et aussi à la grève des cours ont été lancés. Et ce qu'on peut voir à PolyU, c'est plus médiatisé, mais en fait, cet appel a duré. Ça fait presque 2 mois, je dirais, qu'il y a cet appel.
Et comment se déroule? Parce que je pense qu'à un moment donné, le semestre universitaire a été arrêté. Oui. Donc la situation était vraiment une effervescence.
Oui, en fait, on peut voir les images à PolyU, mais en fait, avant les confrontations à PolyU, il y a des confrontations aux autres universités, notamment à Chinese University of Hong Kong, l'université chinoise à Hong Kong. Donc, c'est un peu plus qu'une semaine qu'il y avait cette confrontation. Au début, c'était la police qui voulait envahir le campus qui est sur une montagne. Et quand les gens ont vu que la police voulait envahir un campus, beaucoup de gens sont allés soutenir les étudiants. Donc il y avait un blocus et la police a tiré beaucoup de gaz lacrymogène, donc 1500 cartouches de gaz lacrymogène, selon le chiffre de la police, mais on ne sait pas si peut-être c'est un peu sous-estimé, on ne sait pas. Mais à la fin, la police sont partis. Donc, mais après ça, dans d'autres universités, les étudiants, les gens avaient peur que la police fasse faire la même chose aux autres campus. Et voilà. Voilà, il y a fait PolyU.
Les gens qui restent de son université pour protéger son campus. Mais malheureusement, je pense que les élèves au PolyU ne peut pas quitter l'université.
Oui.
Ils sont bloqués à l'intérieur.
Ils sont bloqués, oui, partout. Et même le... c'est comme tous les...
Toutes les sorties ont été bloquées.
Oui, on a vu que certains s'évadaient en passant par-dessus le mur.
Oui, parce qu'on fait... À PolyU, c'est un peu comme au CUHK. Donc, quand la police commence à envahir l'université, les étudiants ont lancé un appel...
À l'aide, à la solidarité,
citoyens.
Oui. Oui,
donc beaucoup de gens sont allés. Il y a des secouristes, il y a des journalistes. Mais enfin, les journalistes ne sont pas là pour vous souvenir, mais pour témoigner. Pour témoigner. Et aussi des gens rapportent des matériaux, par exemple de la nourriture et tout ça. Mais tout d'un coup, ils sont tous piégés par la police. Ils sont complètement entourés. Même quand ils veulent partir, ils ne trouvent pas de moyens. Une fois qu'ils mettent leur pays hors de l'université, il y a des gaz lacrymogènes.
Ah oui. Donc ça veut dire qu'en ce moment, en fait, c'est le blocage de l'université continue par les forces de police également. Donc ça veut dire que les étudiants ne peuvent toujours pas sortir. Mais qu'est-ce qui peut se passer là? Comment la situation peut évoluer?
Il y a quelques jours, il y avait beaucoup beaucoup d'étudiants qui sont bloqués. Mais puis parce que beaucoup de gens avaient peur que ça va devenir un autre massacre de Tiananmen. Donc, il y avait des professeurs, il y avait le principal des écoles.
Oui.
Qui ont allé
des
négocier.
Responsables, les présidents d'université, oui. ou tout du moins des responsables
des écoles. Pas vraiment des universités,
mais des écoles.
Des écoles. Donc, un groupe de ces professionnels d'éducation ont allé négocier avec la police et ils ont pu ramener une partie des manifestants, mais il y a toujours. Selon des reportages.
Oui, je pense qu'il y a encore. Une centaine d'étudiants qui sont
dans le campus. Mais c'est difficile d'estimer parce qu'ils ont tellement peur après avoir reçu tous ces des gaz lacrymogènes, mais aussi des barrières, des choses comme ça par la police. Ils ont peur, ils se cachent dans le campus.
Alors, en plus, je pense que la police a assuré le blocage complet dans le sens qu'il n'y a plus de nourriture et plus d'eau qui rentre dans les campus.
Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui amènent, qui essayent d'amener.
Non, mais ils ne peuvent pas parce que c'est bloqué. Les centrés, ils ne peuvent plus se faire. Ils sont vraiment piégés à l'intérieur.
Oui.
Mais une chose, à ce moment-là, je crois qu'il y a le chef de la police à Hong Kong et a exhorté l'ensemble des manifestants pour qu'ils se désolidarisent des émeutiers. C'est comme ça que ceux qui sont dans les campus, la police les appelle émeutiers, parce que sinon, ils deviennent complices. Est-ce que cette menace a eu un effet où les gens continuent à soutenir l'action des étudiants?
Sinon, ce que je peux observer, non. Parce que on peut voir dans les vidéos et tout ça que des confrontations sont devenues de plus en plus violentes, et ça c'est vrai, mais il faut prendre en compte le contexte dans lequel tout ça se déroule comme ça. Il faut rappeler qu'il y a 6 mois, au début du mouvement, tout est pacifique. Et en fait, ça restait pacifique longtemps. Mais pourquoi tout ça a évolué? Parce que la police, le gouvernement refuse de nous écouter. Parmi nos revendications, il n'a accepté qu'une seule revendication, mais c'était très tardif. Aussi, la police, l'utilisation de la force de la police est inacceptable. Il y a des arrestations arbitraires. Aussi, peut-être l'une des points clés C'est ce qui s'est passé au 21 juillet, quand les mafias ont attaqué les citoyens normaux. Ah, oui. Et la police a disparu.
N'a rien fait, oui.
Il n'a rien fait. Jusqu'à maintenant, ils n'ont arrêté que 6 personnes. Je pense que personne n'a été accusé par la police.
Il a été inquiété.
Donc, les gens ne peuvent plus croire à la police. Et aussi, il faut souligner que la police continue à appeler les manifestants des CAFA. Donc, c'est le discours du génocide. Donc, les gens savent qu'ils ne peuvent continuer à croire à la police. Mm. C'est pour ça que c'est pas juste... Peut-être on a toujours l'impression que c'est juste les jeunes qui se manifestent, mais c'est pas le cas. Même les gens de différentes...
Différentes générations soutiennent
le mouvement, même s'il y a leur vie quotidienne est un peu perturbée. Beaucoup de gens que je connais comprennent la situation.
Béatrice,
à mon avis, je pense que tous les Hongkongais croient que c'est le combat de vérité. On a besoin de la vérité de toute la manifestation ou de la situation. Et on a bien connu que beaucoup de gens qui ont sacrifié dans ces manifestations, dont on doit être solidaire.
Mmh. D'accord. Mais tout à l'heure, François, tu évoquais que pour comprendre... Les actions des manifestants aujourd'hui, il fallait les mettre dans un contexte. Oui. Et dernièrement, il y a eu un incident dans lequel, encore une fois, la Chine a kidnappé un citoyen de Hong Kong vers la Chine. Alors, et ça, c'est parti aussi du contexte. Si tu peux nous expliquer, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que Pékin a l'habitude de faire?
Oui, en fait... Ça, c'est ce dont vous parlez, c'est le kidnap d'un employé du consulat britannique à Hong Kong, ce qui est un citoyen hongkongais. Donc, oui, il a été kidnappé au mois d'août, pendant 2 semaines. Et récemment, après qu'il a été détenu, il a disparu pendant quelques temps. Et la semaine dernière, il est réapparu devant le BBC. Il a dit qu'il a été torturé par les agents chinois. Il a été kidnappé vers la Chine, de Hong Kong. Donc, ils ont obligé de chanter l'hymne national chinois pendant l'arrestation.
Et si ça allait le convaincre de changer d'idée, franchement.
Ouais. Et aussi, il a été obligé de faire une
autocritique.
Une autocritique télévisée. Donc, après la parution de cet témoignage à la BBC, les autorités chinoises ont dit que il est menteur, que cet Hongkongais est menteur, et qu'il a été arrêté parce qu'il est à cause de la prostitution.
Oui, que c'était un délinquant en fait. Oui.
Mais ils ont mis des images, mais apparemment, moi, je suis plutôt sûr que c'est inventé. C'est facile de trouver un acteur pour recréer ces vidéos, pour le accuser, pour le défamer, tout ça. Donc voilà, c'est l'histoire de cet ex-employé de...
Qu'est-ce qu'il est devenu, là, cet ex-employé de...
Maintenant, il est au Royaume-Uni et il est... Le gouvernement britannique a donné, pour l'instant, un visa de 2 ans, mais ça ne suffit pas. Lui, il veut demander de l'asile.
L'asile politique.
L'asile politique. Et Il faut souligner aussi que ce n'est pas la première fois que parce qu'en 2015, il y avait 5 libraires qui ont été kidnappés. Et certains ont pu revenir à Hong Kong.
Oui.
Mais beaucoup...
beaucoup sont restés... une partie est restée quand même...
L'un des libraires a trouvé l'asile à Taïwan. Mm. Il y a un citoyen suédois, il est toujours en Chine. Il est toujours sous détention en Chine. Donc, aussi, on ne peut pas savoir s'il y a d'autres Hongkongais qui ont été kidnappés. Selon le témoignage de cet ex-employé du consulat britannique, c'était bien le cas. Il a vu des gens qui pensent qu'ils sont des Hongkongais.
Mm. Béatrice,
tu as un commentaire à faire? Non. Alors, en fait, à travers ce que toi et Béatrice vous racontez, on voit bien l'ampleur de la répression et son importance. Et donc, est-ce que vous connaissez l'un ou l'autre les chiffres de la répression? Et deuxième question, qu'est-ce que risquent les manifestants arrêtés comme poursuite judiciaire, et qu'est-ce que risque également toute personne qui s'exprime envers le mouvement, avec bien sûr en soutenant ce mouvement, quels sont les risques encourus?
Si on est accusé à Hong Kong, si on est accusé comme émeutier, on risque 10 ans en prison. Donc pendant le siège de Polyu, le chef de police a dit qu'il va accuser tout le monde qui a arrêté, qui se trouve dans le campus. Donc tout le monde risque 10 ans en prison. Mais apparemment, ça, c'est ce que dit
la loi.
Ce que dit la loi et ce que veut faire le chef de la police. Parce qu'il y a des... À part des manifestants, il y a aussi des secouristes qui ont été arrêtés et qui risquent d'être accusés par la police aussi. Donc, c'est pas juste les manifestants qui sont arrêtés. Il y a des secouristes, il y a des...
C'est tous ceux qui les aident également. Alors, en fait ça veut dire que, 10 ans de prison, à la limite, on déclare 10 ans de prison sans qu'il y ait véritablement un procès en plus.
Mmh. Pardon.
Les autorités disent 10 ans de prison, mais sans qu'il y ait une régularité dans le procès qui peut être fait. C'est un procès complètement irrégulier.
En fait, les procureurs, la police veut accuser tous ces gens et la justice, le cour a dit récemment que ce qu'a fait la police, c'est pas le procureur n'est pas professionnel, parce que normalement il faut trouver toutes les évidences pour présenter devant la cour, mais la police n'a pas bien fait son travail.
Oui.
Béatrice.
Oui, je pense je veux ajouter quelque chose. Il n'y a pas It's not only that the people are in the university is arrested, but when they want to leave Hong Kong at the departure, they were arrested as well. So they're arresting all the people and searching all the people everywhere.
Oui, Béatrice a parlé elle a dit que c'est pas juste des gens qui se trouvent dans le campus qui a été arrêté.
Ils ont cherché partout.
Oui, ils ont cherché partout. Et il y a des arrestations arbitraires partout. Donc, même dans les rues, quand les gens, on peut voir que même quand les gens critiquent la police dans les rues, ils vont t'arrêter. Donc il y a notamment des étudiants, parce que si c'est quelqu'un de plus jeune pense que c'est leurs ennemis.
Oui. Oui, donc il n'y a aucune espèce de liberté d'expression.
Non, et aussi par rapport à la répression, et la police, il va même dans les hôpitaux, et pour arrêter des manifestants qui ont été blessés ou dérangés par les lacrymogènes. Suite à ça, quelle est la réaction du personnel des hôpitaux face à ça, et comment s'organisent les manifestants pour éviter que la police puisse arrêter les blessés?
Oui, effectivement, dans les manifestations, même quand les gens sont gravement blessés, il y a des blessés qui ont dit qu'ils ne veulent pas aller à l'hôpital parce qu'il y a des policiers qui sont stationnés dans les hôpitaux. Donc, on a déjà, y a déjà des cas confirmés dans lesquels la police a fait des arrestations dans les hôpitaux. Et aussi, la police a empêché le travail des médecins. Donc, il y a des médecins qui ont déjà exprimé leur colère. Mais c'est précisément à cause de ça que de plus en plus des manifestants ont peur d'aller dans les hôpitaux et à la fin ils trouvent leurs propres moyens, ils trouvent des médecins clandestins.
Et il y a l'organisation des cliniques, entre guillemets, clandestines.
Ouais.
Vous confirmez que c'est passe comme ça?
Oui. Il y a de plus en plus des cliniques clandestines. Mais moi je suis à Hong Kong, donc moi, je ne peux pas confirmer. Mais...
Béatrice,
oui, je pense qu'on ne sait pas, mais je vois qu'il y a des célébrités à Facebook qui aident la personne qui est blessée, elle trouve le médecin, oui.
Dans un système de soins clandestins.
Oui, mais c'est trop secret.
Oh,
Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 et aujourd'hui c'est une émission spéciale consacrée à la situation à Hong Kong avec Béatrice et François qui sont membres du comité pour la liberté à Hong Kong. Béatrice, tu peux nous expliquer ce qu'on vient d'entendre là ?
Oui, c'est la chanson qui est créée par une équipe de la Forum LIHKG. C'est un forum à Hong Kong comme Reddit. Il crée cette chanson pour réunir le Hongkongais et donc il y a des manifestations ou des rassemblements dans la rue ou dans le centre commercial. Les gens chantent ces chansons, oui. Et les chansons qui parlent de la révolution de notre temps et maintenant, we fight for freedom.
Nous combattons pour la liberté
et la justice.
La chanson est devenue quasiment un hymne.
C'est l'hymne des manifestants.
Oui, d'accord. Exactement.
Alors, on continue sur la question de la répression et on n'en a pas fini avec celle-ci. François, tu évoquais hors micro, et c'est pour ça que je voulais te reposer la question, sur les problèmes de santé qui ont commencé pour les manifestants après avoir inhalé cette quantité de gaz lacrymo excessivement importante. Alors, quels sont ces problèmes de santé ? Comment est-ce que c'est entendu ? Comment est-ce qu'ils arrivent à se soigner ?
Oui, en fait... Il y a un peu plus qu'une semaine, un journaliste a été diagnostiqué d'une maladie qui est causée par une matériau chimique qui s'appelle le dioxène. Le dioxène, c'est quelque chose de très toxique. Et moi, je ne suis pas chimique, donc j'ai fait un peu de recherche. Le dioxène, c'est selon ma recherche sur le site web de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une substance très toxique. Excusez-moi. C'est pas grave. Donc, c'est une substance qui peut causer le cancer parmi d'autres
troubles. Oui.
C'est considéré l'une des substances la plus toxique qu'on peut se trouver. Le niveau de dioxine, même si ça existe normalement, mais le niveau est très bas, mais on peut constater que le niveau est plus élevé que normal après les gaz lacrymogènes. Et il y avait des témoignages des scientifiques. Et pour les scientifiques, c'est le processus d'établir ces liens... Il faut des expériments et tout ça, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une forte possibilité que c'est à cause de du gaz lacrymogène utilisé par la police qui a causé ça. Donc, c'est notamment parce que la police hongkongaise a commencé à utiliser des gaz lacrymogènes, des cartouches de gaz lacrymogène qui est fabriqué en Chine. Et avant, ils utilisent des gaz lacrymogènes fabriqués ailleurs. Et alors, les cartouches de gaz,
ça veut dire qu'elles étaient moins toxiques.
C'était pas exactement ça, mais ça brûle à une température plus élevée. Et quand ça brûle dans une température plus élevée que normale, que des gaz lacrymogènes fabriqués ailleurs, ça crée le dioxine. Parce que dans les températures normales, dans la combustion des gaz lacrymogènes à une température normale, ne crée pas de dioxine. Mais on peut observer que les cartouches de gaz lacrymogène fabriquées en Chine brûlent dans une température très très élevée et ça crée des scientifiques constatent que c'est très probablement que ça va créer le dioxine. Et le gouvernement jusqu'à là n'a pas parce que normalement les autorités le gouvernement doit publier des statistiques des matériaux, dangereux dans,
oui,
dans l'air.
Ils doivent donner la composante, les composants de ces produits-là.
Mais normalement c'est ce que doit faire le gouvernement, les autorités. Mmh. Mais pour l'instant, le gouvernement a refusé de commander. Donc, on ne sait pas. Les gens ont peur que ça va devenir un problème de la santé publique. Parce que c'est... Le gaz lacrymogène est partout maintenant. Oui. La police tire quand il veut.
Oui, je veux. Et aussi, il y a un sondage qu'il y a 80% que le citoyen est déjà touché ou exposé.
Exposé à la
gaz lacrymogène. Mm-hmm. Et parce que, comme François a dit, c'est la police a tiré le gaz lacrymogène partout et c'est un très, très grand problème. Oui.
Mais toujours dans le contexte de la répression, il y a eu deux appels à des grèves générales. Et dans la première a été assez suivie. Mais ce n'était pas le cas de la deuxième. Et en partie, ça s'explique par les suites qui ont été données à cette grève avec pratiquement licenciement des membres du syndicat qui avaient participé et aussi des simples grévistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou raconter comment ça se passe au niveau syndical et au niveau des travailleurs?
Oui, comme vous avez évoqué, c'était le syndicat du Cathay Pacific, la ligne aérienne,
oui.
La ligne aérienne hongkongais, la chef de syndicat de Cathay Pacific a été
licenciée.
Donc ça crée une atmosphère de peur. Parce que même la tête du syndicat peut être licenciée, donc ça crée une atmosphère de peur parmi tous les travailleurs. Et c'est non seulement quand il y a quand on parle de la grève qu'il y a ce genre de répression, mais aussi même quand on poste quelque chose sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Si on critique le gouvernement, si on montre la solidarité avec le mouvement, il y a des cas dans lesquels les employés sont licenciés à cause de leurs opinions politiques. Donc, voilà, ça crée une atmosphère dans laquelle les gens, même dans le travail, ils n'osent pas...
D'autant qu'en plus de ça, quand ces personnes sont licenciées pour qu'elles puissent retrouver du travail, ça va être très, très compliqué, étant donné l'atmosphère actuelle.
Exactement.
Donc, ça veut dire encore une fois de plus que la liberté d'expression, elle est très, très attaquée.
La Chine a employé beaucoup de moyens. Il y a des moyens plus directs, il y a des moyens indirects. Par exemple, dans les grandes entreprises telles que Cathay Pacific, dans l'Union aérienne, mais aussi d'autres entreprises, même des entreprises étrangères avec lesquelles la Chine a un lien fort. Par exemple, BNP Paribas.
Oui.
L'a licencié un avocat parce qu'il a fait un commentaire sur les manifestants pro-gouvernement, pro-Pékin. Mmh. Il a fait un commentaire
qui n'était pas très positif pour eux, on va dire.
Ça n'a pas plu. Et dans un jour, il a été licencié.
Béatrice, non, rien d'autre à ajouter. Alors, demain... il y a des élections locales qui sont prévues. Alors, quelle importance elles ont, ces élections, et quel est l'intérêt du gouvernement chinois dans ces élections-là? Quel est son point de vue, quel est le regard, l'attitude qu'elle a par rapport à ces élections?
J'imagine que l'autorité chinoise et l'autorité hongkongaise ont peur de cette élection.
Pardon, et en même temps, question, qu'est-ce que c'est que ces élections locales? C'est pour choisir quoi ou qui exactement? J'ai oublié de le demander aussi.
Ok, j'essaie d'expliquer un peu. C'est une élection locale, donc c'est un peu comme... j'essaie de faire une comparaison, mais ce n'est pas exactement pareil. C'est un peu comme l'élection des représentants d'un arrondissement. Oui, donc, c'est très, très localisé.
Comme les élections municipales, par exemple,
France. C'est un peu comme ça, mais... oui, c'est un peu comme ça.
D'accord.
Donc, ce n'est pas encore l'élection législative qui serait beaucoup plus importante. L'élection législative aura lieu septembre 2020. Donc, il y a encore... un peu moins qu'un an, mais quand même, c'est une élection, c'est une opportunité pour montrer l'opinion publique. Donc, j'imagine que les autorités chinoises et hongkongais ne vu pas que ça se déroule normalement. Donc, il y a une possibilité qu'ils veulent trouver une prétexte pour l'annuler. Ça ne serait pas facile, mais c'est possible, c'est toujours possible. Donc, ce que je peux observer maintenant, il est très probable que le camp anti-gouvernement va gagner beaucoup, va gagner. Donc, normalement, parce que avant ce mouvement, comme le camp pro-gouvernement a beaucoup plus de ressources, il gagne beaucoup plus de sièges que le camp pro-démocratie, qui est aussi un peu plus divisé, à part le fait qu'ils ont moins de ressources. Mais cette fois-ci, l'opinion publique est très claire, et il y a de plus en plus de gens qui sont plus engagés qu'avant. Donc j'imagine que très probablement, si l'élection se déroule normalement demain, on peut voir que... d'opinion publique pour être reflétée dans l'élection.
Oui. Alors, vous pensez qu'elles peuvent se dérouler effectivement normalement demain, ces élections?
C'est difficile d'estimer. En fait, j'imagine une prétexte que le gouvernement hongkongais peut trouver, c'est qu'il y a du chaos. Mais il y a beaucoup de manifestations qui ont dit que demain, tout sera calme. Il n'y aura pas de confrontation pour que l'élection puisse se dérouler normalement.
Béatrice?
Je pense comme il y a des gens qui appellent... qui dit en Facebook qu'on doit y aller plutôt pour voter. Et aussi, je pense qu'il y a, pour cette élection, il y a plus de population qui a registré to be the voter.
Oui, ils ont beaucoup de registrations. Les gens, on peut voir qu'il y aura plus de participation qu'avant. Mm. Et oui, il y a une chose que j'ai oublié de souligner. Il y a déjà le gouvernement a fait des gestes, des petits gestes bizarres pour empêcher des gens de se rendre aux urnes. Par exemple, il y a des changements d'adresse des bureaux de vote. Donc, il y a normalement, comme c'est une élection locale, le bureau de vote est très près de tout le monde. Mais il y a des changements d'adresse qui sont... Enfin, le bureau de vote sont déplacés à un endroit qui est difficile pour se rendre. Donc, voilà, il y a des petits gestes comme ça, mais j'imagine que ça ne suffit pas pour empêcher les gens de participer.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 et l'émission que vous entendez en ce moment est une émission spéciale consacrée à la situation à Hong Kong. Et nous sommes avec Béatrice et François qui sont tous deux membres du comité pour la liberté à Hong Kong.
Bah, face à la répression qui est menée par les forces de l'ordre contre les manifestants, est-ce qu'on remarque une implication de plus en plus évidente de Pékin dans la gestion de cette crise ?
Oui, je pense qu'il faut... Le Pékin est toujours impliqué. Pékin est apparemment toujours derrière le gouvernement hongkongais. En fait, Xi Jinping a récemment parlé pour la première fois publiquement de la situation dans laquelle il soutient publiquement Carrie Lam. C'est après ce soutien exprimé par Xi Jinping que la police a devenu encore plus violente. Donc ça, c'est la première chose. Et il faut aussi ajouter que récemment, il y a des soldats chinois qui sont allés dans les rues pour vider
pour nettoyer les rues.
Ils se présentent comme des bénévoles, mais apparemment ils sont des soldats. Donc je pense que c'est un geste symbolique pour dire à tout le monde qu'ils sont là. Et donc même si l'intervention militaire n'est pas très très probable, mais le risque est toujours là. Donc la situation est très dangereuse si l'armée chinoise intervient.
Oui. Béatrice.
Oui, et aussi il y a une réunion je pense il y a quelques semaines que dans la réunion chinoise il a dit que on doit être tighten the grip on Hong Kong et Macau.
Mais le gouvernement a exprimé le gouvernement chinois veut être plus sévère, plus strict avec Hong Kong.
Mmh. Oui, bien sûr. il y a une logique gouvernementale là qui s'affirme, bien sûr. Alors, la révolte à Hong Kong a maintenant 6 mois d'existence. Est-ce que l'état d'esprit de la population hongkongaise a évolué ou est-elle toujours dans le même état d'esprit? On sait qu'il y a quand même qu'il y a eu des tentatives de division, on en a parlé tout à l'heure, dans la société hongkongaise. On sait aussi qu'il y a des gens qui sont complètement opposés à ce qui se passe et qui ont essayé également de dire ce qu'ils en pensaient. Mais bon, quand même, l'état d'esprit est comment à l'heure actuelle ? Il y a de la crainte, il y a beaucoup, beaucoup de crainte, il y a l'envie d'en découdre, il y a le fait de continuer à vouloir s'opposer coûte que coûte à ce que veut faire le gouvernement chinois. Est-ce qu'il y a une lassitude ? C'est tout ça, cette espèce de panorama. Quel est le panorama que vous pouvez nous dire l'un et l'autre de cette population ?
Selon ce que je peux observer de loin, l'esprit est toujours là, donc les gens insistent à continuer à lutter. Donc c'est pas seulement les jeunes, comme j'avais souligné plus tôt, mais les jeunes sont plutôt à la front. Il y a plus de gens à la front parce que à chaque fois qu'il y a des manifestations, le gouvernement emploie plus de force. Donc d'autres générations, ils préfèrent d'autres moyens pour se manifester, alors que les jeunes sont plus à la frontière avec la police. Et par rapport au début, il y a plus de craintes et il y a plus de stress aussi, parce que, par exemple, à Poliu et aussi aux autres universités, on a l'impression que... Quand on est entouré par la police, il y a une sorte de désespoir. Mais malgré le désespoir, ils continuent à lutter. Et moi, je quand en voyant ces images, j'étais vraiment triste quand je vois ces images de loin. Parce que moi j'ai 25 ans. Si j'étais un peu plus jeune, je serais parmi eux. Et moi, j'avais de la chance, mais eux, j'ai profité des années un peu plus paisibles, dans laquelle on ne savait pas encore que
ça pourrait tourner comme ça, oui.
Ouais, mm-hmm. Que la police va devenir comme ça, le gouvernement peut devenir comme ça. Mais ces jeunes-là, il y a vraiment... Il y a vraiment cette atmosphère que je trouve triste de voir.
Et dangereuse.
Oui.
Béatrice.
Oui, et pour moi, je pense aussi qu'il y a... bien sûr, les Hongkongais persistent sur les cinq revendications, mais parce que la manifestation a duré pendant 6 mois, c'était de plus en plus dangereux d'aller dans la rue. Et donc, pour moi, dans mes amis, on pense aussi que c'est plus triste et désespéré. Mais en tout cas, on doit être persistant.
Oui, il y a toujours... Les gens sont, je trouve que les gens sont plus désespérés qu'avant, mais les gens ont toujours gardé cet esprit de lutter. Je trouve ça remarquable.
Oui, et parce que il y a des espaces, des espoirs, mais aussi je pense que tout le monde est en colère. Et je pense la colère et vers le gouvernement, c'est quelque chose qui help us to resist.
Oui, il y a une colère qui aide, qui fait pousser les manifestants.
Oui.
La colère les aide aussi à tenir. Oui.
Parce, la solidarité, je dirais.
Et la colère, la solidarité aussi.
Parce que c'est vrai que vous dites, c'est un mouvement qui s'inscrit dans les temps. C'est ça qui c'est la durée qui est si difficile à gérer. Mais on a vu que dernièrement, pendant les occupations des universités, les occupations forcées des universités, il y a des salariés qui, à midi, ils sont sortis pour soutenir ce qui s'est passé. Et pendant leur temps du repas, ils sont soutenus. Donc il y a quand même, je pense qu'il y a peut-être des désespoirs, mais la solidarité reste là.
Exactement. La solidarité, c'est important. Et c'est non seulement des classes différentes, des classes travailleurs, des étudiants, et aussi même des professeurs des universités, d'autres professionnels, mais aussi des autres ethnicités. Il faut, il y a presque un mois, je pense, les communautés de l'Asie du Sud-Est,
oui.
Et aussi notamment de Pakistan et de l'Inde, qui sont souvent discriminés par le gouvernement. Ils ont montré leur solidarité avec le mouvement.
De Hong Kong, oui.
Oui.
Alors, un acte de solidarité qui peut se passer ici en France, c'est de venir voir l'exposition d'art hongkongais qui a été créée dans le mouvement. Alors, cette exposition, en quoi consiste-t-elle et où se passe-t-elle et jusque quand ?
L'exposition s'appelle « Où est cendre pour une révolution créatrice ?» Donc, l'exposition consiste aux œuvres d'art créées par 13 artistes. Ce sont des artistes hongkongais et internationaux. Donc, il y aura une performance de danse, il y aura de la musique, il y aura des projections de films et de documentaires. L'exposition aura lieu de 3 décembre jusqu'à 7 décembre. Elle sera lieu à Dock,
au 19e
arrondissement.
D'accord. Au Dock, au 19e arrondissement, c'est ça ?
Oui.
Bah, très bien, bah, on y sera. Et merci à Lucien pour avoir assuré la technique. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, cette émission spéciale était consacrée à la situation à Hong Kong et que pour parler de cette situation, nous étions avec Béatrice et François, membres du comité pour la liberté à Hong Kong. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à notre émission et peut-être à une prochaine fois.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.
À bientôt.
La notion de contrôle est à peu près aussi réaliste qu'une licorne unijambiste qui s'arrêterait sous un double arc-en-ciel pour pisser.
Journée du livre polar, samedi 14 décembre 2019, de 16 à 22 heures. FPP vous appelle à vous rendre à la première édition de sa journée du livre, cette année consacrée au roman noir aux policiers avec comme thématique les gilets jaunes. À cette fin, une émission spéciale sera enregistrée avec deux auteurs de polar récents dont l'action se situe dans la galaxie des gilets jaunes. Cécilia Lidovski, auteur de La France, donner son avis peut coûter cher, aux éditions Books et Demande. Les deux autres auteurs, Gérald Etteil, auteur des Écœurés parus en mai 2019 au Seuil, c'est un polar donc sur les gilets jaunes en province, et David Dufresne, auteur de Dernière sommation, paru en octobre aux éditions Grasset. Une séance de dédicace de ces trois auteurs aura lieu après l'émission, bien entendu. Plus de 1000 romans policiers d'occasion seront vendus au profit de FPP et plusieurs centaines de livres d'occasion à partir de 50 centimes et en prix libre seront vendus au profit de la radio. Enfin, un bar et une petite restauration seront disponibles sur place.
Pour reprendre le contrôle de ma vie.
Jeudi 12 décembre, l'Éternel Solidaire et Radio FPP. Vous invite à un apéro émission spéciale en public et en direct sur 106.3 FM. À partir de 19h et jusqu'à 20h30, entre débat et performance, l'univers carcéral vous ouvre ses portes.
L'ombre vient effleurer nos songes. La lutte garde en éveil, alors je fonce. Mon ciel est ouvert.
Rendez-vous au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e, quartier Danube.
Parti, mon esprit glisse ailleurs. Au fait du vent, mes chances en quête de récepteurs. Dans la poussière.
À partir du 5 décembre, la fréquence de la grève, c'est FPP 106.3. La ligne du direct est ouverte pour relayer vos informations sur les luttes, vos coups de gueule, vos galères. 01 40 05 06 10.
Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit, de quoi te rendre malade.
FPP 106.3.
C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi.
Fréquence Paris Pluriel.
Tu es un esclave, Néo.
Avec FPP, vous avez le choix.
N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.